les écrans prennent-ils soin de nos enfants?
Merci, Monsieur Billet. Merci à l'association, à sa présidente qui m'a sollicité. Et merci à vous, en cette heure presque matinale, d'être présent. Les absents auront tout à fait tort et les retardataires aussi. Donc, votre colloque s'appelle « Prendre soin de nous, prendre soin des autres ». Ça pose la question, effectivement, de prendre du soin. Prendre soin. Soin, c'est un très vieux mot qui a une racine indo-européenne, « sogne », qui veut dire « prendre l'autre en souci », avoir du souci pour l'autre. Il en reste d'ailleurs être au petit soin pour l'autre. Hein, voilà, être au petit soin, ça signifie avoir de l'attention pour l'autre. C'est complètement différent du traitement. Traitement, ça vient de tractus, tractare, qui veut dire tirer, arracher, extirper. Il y a quelque chose de violent, et le traitement, c'est une technique. Le soin, c'est une relation. On ne peut pas soigner sans être dans la relation, sans avoir du souci pour l'autre, d'avoir un respect de l'autre. Et donc, évidemment, c'est un élément essentiel, et je dirais que plus l'autre est en position de vulnérabilité, plus l'autre est en position de faiblesse, plus effectivement le risque est uniquement de le traiter et d'oublier qu'on doit aussi avoir à son égard un souci de soin. Le soin doit toujours s'articuler avec le souci de soin, avec avoir le souci de soigner l'autre, d'être attentif à l'autre. Il y a là un élément essentiel qui doit être développé largement. Dans les pays anglo-saxons, on oppose ça avec ce qu'on appelle le care et le cure. Le care, c'est effectivement prendre soin, et le cure, c'est traiter, c'est extraire, curer un fossé, curer un étang. C'est extraire les cochonneries du fossé et de l'étang. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est fondamentalement différent. Et bien entendu, dans les métiers de la relation, si on se contente de traiter, on est complètement à côté du problème. Alors la question, c'est effectivement, est-ce que les écrans ont un souci pour l'autre et un souci pour l'enfant, puisque je vais parler des enfants. Est-ce que les écrans sont attentifs à l'autre et cherchent effectivement à faire que cet autre soit enrichi, soit nourri, soit voilà, quelque chose de cet ordre-là, et que son intérêt soit préservé. Alors, je vais parler, dans ce qui va venir, je vais parler essentiellement des tout-petits. Quand on parle des écrans, pour que les choses soient claires, il faut être attentif à distinguer d'un côté les adolescents, au-delà de 12-13 ans, avec effectivement chez les adolescents ce qui domine, c'est le risque d'usage abusif, le risque d'addiction, etc., et le risque d'usage dans des sites un peu particuliers, etc. Ça, c'est les adolescents. Les enfants d'âge moyen, on va dire entre 4-5 ans et 11-12 ans, c'est peut-être l'âge où, effectivement, les écrans peuvent vraiment être utiles aux enfants s'ils sont, je dirais, utilisés avec intelligence et avec cadrage parental, cadrage familial ou cadrage éducatif. Et là, incontestablement, les écrans peuvent apporter des connaissances, peuvent apporter des découvertes, etc., etc. Et je dirais que c'est l'âge privilégié pour les écrans dans le domaine de l'enfance. Et puis le troisième élément, c'est les tout-petits. Les tout-petits, c'est-à-dire depuis l'âge où ils peuvent attraper quelque chose et le tenir en main, on va dire 6-8 mois, jusqu'à effectivement l'âge où le langage est bien installé et où il y a une communication orale à peu près satisfaisante, donc on va dire entre 4 ans, 4 ans et demi, il y a évidemment de grandes variations d'un enfant à l'autre. Mais jusqu'à ce que le langage permet peut-être de se décoller de quelque chose et de créer un monde interne dans lequel on peut avoir une autonomie de pensée. Quand on parle, et surtout quand on commence à accéder au jeu, J-E, eh bien, effectivement, il y a une forme d'autonomie de pensée. Donc, c'est tout petit. C'est un problème nouveau aujourd'hui qui a émergé, nous sommes en 2019, qui a émergé dans les années 2016-2017, donc ça fait 2-3 ans, à la suite de l'arrivée massive des écrans dans les familles et surtout des écrans nomades. Les écrans nomades, ce sont les iPhones, les tablettes, etc., qu'on peut promener partout. C'était une chose d'avoir une télévision dans le salon, qui était là, même si elle était allumée 24 heures sur 24, de temps en temps, les enfants sortaient, allaient ailleurs, etc., etc. Puis les télévisions se sont multipliées dans les appartements ou dans les maisons, il y en a eu dans les cuisines, dans les chambres, etc. Ça commençait déjà à être problématique. Mais enfin, quand on sortait, quand on allait faire des courses, quand on mangeait, il n'y avait pas toujours, toujours une télévision sous le nez. Et puis sont apparus les écrans, des ordinateurs, puis les écrans nomades. Et là, ça a été une véritable catastrophe. Cet envahissement des écrans dans les familles a surgi dans les années 2013-2014. Voilà. Et évidemment, les enfants y ont été exposés à partir de ces années 2013-2014. Et on a commencé à voir les conséquences d'une exposition massive aux écrans dans les années 2017-2018 et 2016-2017. Et les professionnels, alors les professionnels, c'est qui ? Ce sont tous les gens qui sont au contact de la petite enfance, c'est en partie vous, c'est les personnes des haltes garderies, ce sont les personnels des crèches, ce sont les personnels de l'éducation nationale de première année de maternelle, ce sont les personnels évidemment dans les centres de consultation, les CMP, les psychologues, les infirmières, ce sont les personnels, les orthophonistes. Peut-être un petit peu moins les psychomotriciens parce qu'il y en a moins en privé. Ce sont bien sûr les médecins, les pédiatres, etc. Et bien sûr les pédopsychiatres. Tous ces personnels ont constaté l'irruption d'une sorte d'épidémie de troubles dont la massivité effectivement était quand même relativement inquiétante. Maintenant, on pourrait dire que dans tout groupe d'enfants de 15-20 enfants, il y en a au moins un ou deux qui répond presque à ce que je vais décrire maintenant. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit effectivement de ce que j'ai appelé, dans un article qui était paru dans Le Monde il y a déjà quelques années, qui s'appelle l'exposition précoce et excessive aux écrans. Donc dans cette expression, il y a la précocité et il y a l'excès. Entendons-nous, un enfant qui a sous les yeux un écran pendant une quinzaine de minutes dans la journée, ça va pas le rendre malade. Voilà, c'est une erreur grave de diaboliser les écrans. Le problème, parce que diaboliser les écrans, c'est comme si en 1920 ou 1915, on avait diabolisé les voitures. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il faut continuer à marcher à aller à cheval avec sa charrette, et les voitures, c'est dangereux parce que ça peut écraser des gens. Voilà. C'est à peu près le même type de raisonnement de diaboliser les écrans. Donc, ça n'a aucun intérêt, sinon de crisper les gens, d'avoir le sentiment pour ces gens-là que vous dites des choses stupides, que vous êtes à contre-courant et que vous n'êtes pas entendu. En revanche, attirer l'attention sur un usage immodéré, sur des manières de faire pas adaptées qui peuvent nuire à l'enfant, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire tout de suite avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la description brève de ce syndrome que vous pourrez retrouver dans d'autres écrits, je vous les citerai, et de donner quelques explications sur les causes. Ce que je voudrais tout de suite dire, c'est la position actuelle d'un certain nombre de scientifiques, et pas des moindres, puisque c'est particulièrement vrai pour le rapport qu'a fourni les académies des sciences, de médecine et de technologie. Elle a fait il y a peu de temps un rappel auquel d'ailleurs j'avais participé. Et dans ce rappel d'ailleurs, il cite ce fameux syndrome, exposition précoce et excessive aux écrans. Mais c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que les troubles qu'on observe, ils sont probablement essentiellement dus à la carence parentale, au fait que quand les enfants sont pendant 4 heures devant des écrans, les parents s'en occupent pas, les parents laissent les enfants devant ces écrans qui sont décrits comme des écrans calmants, et c'est de leur faute. Voilà. En gros, c'est de la faute des parents qui laissent les enfants devant les écrans, et les écrans, eux, et le spectacle des écrans n'y sont pour rien. Voilà. Il n'y a pas de nocivité propre des écrans. C'est une manière, je dirais, très dangereuse et contestable d'exonérer l'écran et son contenu de toute responsabilité dans les troubles et d'accuser les parents par contre-coup. C'est d'autant plus grave, me semble-t-il, que les populations les plus aisées, les plus au fait des problèmes, savent un peu, pressentent les risques des écrans et ont tendance à mettre leurs enfants à l'abri, alors que les populations que j'appellerais les plus vulnérables, les plus fragiles, les populations qui ont des problèmes socio-économiques majeurs, les populations immigrées récentes, enfin, etc., etc. Bref, ces populations-là sont nourries de l'illusion qu'en donnant des écrans à leurs enfants, ça va stimuler les enfants, ça va leur permettre d'apprendre le français, ça va leur faire progresser dans la connaissance, etc. Bref, ils sont trompés sur toute la ligne. Donc, ils donnent des écrans avec l'intention de bien faire, et ensuite, après, on les accuse de ne pas s'occuper de leurs enfants et d'avoir créé des carences affectives. Voilà, ça, donc, je pense que sur le plan éthique, moral, cet angle de vue est extrêmement dangereux. Alors, bien sûr, c'est facile de dire que pendant 4 heures, si les enfants sont sur les écrans, les parents ne s'en occupent pas. Ça, c'est évident. Voilà, et que donc, c'est à cause des parents. Mais c'est peut-être un peu court en raisonnement. D'autant que les troubles liés à l'exposition précoce et excessive aux écrans ne sont pas identiques aux troubles qu'on observe dans la carence affective. La carence affective et la carence de soins ne présentent pas les mêmes symptômes. En tout cas, ce n'est pas la même dynamique. Il faut être vraiment un grand ignorant pour mélanger les symptômes de la carence et les symptômes de l'exposition précoce excessive aux écrans et les symptômes de l'autisme. Voilà, il faut vraiment... Donc, il y a une finesse d'analyse des symptômes, on va dire une finesse sémiologique. Bien sûr, ce n'est pas votre registre, mais ce que je vais vous dire là, c'est pour vous alerter et pour exhorter les parents, d'abord à réfléchir à la place des écrans dans la famille, et ensuite à consulter si l'enfant présente les quelques-uns des symptômes que je vais citer. Alors, ces enfants aujourd'hui, effectivement, on leur donne des écrans dès qu'ils tendent la main et dès qu'ils ont l'âge de prendre l'objet en main. Pourquoi les enfants réclament-ils cet écran dès qu'ils ont 6, 8, 10 mois ? Caractéristique à partir de 10, 12 mois. Ils réclament cet écran parce que pour un enfant de cet âge-là, ce qui l'intéresse en premier, c'est ce qui intéresse l'adulte. Quand les adultes autour de lui, en particulier ses parents, s'intéressent à quelque chose, l'enfant, le petit, s'intéresse à ce qui intéresse le parent. Et il est curieux de savoir pourquoi son parent reprend le téléphone et téléphone, pourquoi son parent est en train d'écrire sur une feuille, pourquoi son parent est en train de faire la cuisine et de touiller quelque chose dans la casserole, et pourquoi son parent a l'attention accaparée par l'écran. Donc effectivement, quand un parent auprès de l'enfant, d'un petit enfant, est très souvent avec un écran sous les yeux, et j'en vois de plus en plus, je vois de plus en plus de jeunes mères, qui en promenant leur enfant ou en le portant ont leur truc et sont occupés à l'écran et ne sont plus occupés dans une interaction avec le tout petit. Eh bien, effectivement, un tout petit, il a envie de s'approprier cet objet. Et là, il y a effectivement un certain nombre de parents qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il est extraordinaire, mon enfant, il est en avance, il est précoce parce qu'il s'intéresse déjà aux objets des grands. Au lieu de s'intéresser à sa peluche, il s'intéresse à l'écran. » Ben oui. Quand un adulte ne s'intéresse pas à la peluche, un enfant ne s'intéresse pas à la peluche. Quand un adulte s'intéresse à l'écran, l'enfant s'intéresse à l'écran. C'est aussi simple que ça. Donc ça, quelque chose qu'il faut bien comprendre, et il faut bien comprendre le raisonnement pour pouvoir l'argumenter et le discuter avec les parents. Non, madame, c'est pas qu'il s'intéresse aux choses des grands, c'est qu'à son âge, il s'intéresse à ce qui vous intéresse, vous. Et c'est parce que vous vous intéressez tout le temps à l'écran que lui a envie d'en avoir un aussi. Si vous jouez avec lui, il va s'intéresser aux objets avec lesquels vous jouez avec lui. Voilà la différence. Et aujourd'hui, je dois le dire, de moins en moins de jeunes parents passent du temps à jouer avec un enfant. Et c'est là le problème, je viens de le dire, passer du temps. Soigner un tout petit, c'est accepter de consacrer du temps à ce tout petit. Alors il est vrai que notre société, de ce point de vue-là, complique la tâche des parents, c'est vrai. Mais malheureusement, je ne suis pas président de la République et quand bien même le serais-je, je ne pourrais pas modifier le rythme absolument cinglé dans lequel est entrée notre société, qui n'est pas un rythme qui correspond aux tout-petits. Alors, à partir de là, les petits ont très souvent, ils accaparent l'écran ou ils le donnent. Et on le leur donne. Alors, qui le leur donne? Les parents. Quand ça? Bah, tout le temps. Pendant les repas, parfois même en s'endormant, parfois dans la salle d'attente du médecin, parfois dans le train ou dans le RER ou dans le métro, parfois dans la poussette, parfois chez lui, etc. Qui le lui donne? C'est le papa, c'est la maman, mais c'est aussi les grands frères, les grandes sœurs. C'est effectivement n'importe qui. Et puis, dès que l'enfant a souvent 18-24 mois, on va à ce moment-là lui donner une tablette. Et on reverra ensuite, ça complique encore les choses, ça aggrave les problèmes. Alors, combien de temps il faut pour qu'une surexposition survienne? L'ensemble des professionnels s'accorde à dire que ben, quand un enfant est confronté plus de 2 heures par jour à un écran, tout écran confondu, ben, on est déjà dans un risque. Je vous rappelle qu'un tout petit, il dort quand même un certain nombre d'heures par jour, il fait la sieste, parfois un peu le matin, et que c'est son temps d'éveil, c'est 8 heures par jour, parfois, voilà. Donc 2 heures ou 3 heures d'écran, si vous regardez ce que ça fait comme proportion par rapport au temps d'éveil. Donc on s'accorde à dire que 2 heures et plus de 2 heures d'exposition aux écrans, tout écran confondu, on est là dans la zone à risque. Sachant aujourd'hui que la moyenne pour une famille française moyenne qui a 2 enfants, il y a en moyenne 11 écrans dans la famille. 11 écrans. Si vous faites la totalité de tous les écrans, télévision, tablette, petit écran incorporé ici ou là, jeux, etc., etc., ordinateur, vous aboutissez en moyenne à 11 écrans. Donc vous voyez bien, tout de suite, on n'en a pas conscience. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans toutes les enquêtes aujourd'hui concernant la parentalité, les questions de la parentalité, dans toutes les enquêtes, le problème des écrans arrive en tête des difficultés des parents avec leurs enfants. Alors, bien sûr, surtout avec les adolescents, mais en général. Comment gérer les écrans et comment gérer? C'est donc un problème majeur, un problème éducatif majeur aujourd'hui pour les parents. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous, des relais qui devaient être attentifs et compétents dans cette questionnement parentaux. Dans ces questionnements parentaux et de leur apporter de l'aide. Alors, j'en arrive, et je vous fais saliver un petit peu exprès, mais bon, ça, c'est pas grave. J'en arrive à la description de cet ensemble. Alors, on appelle ça un syndrome dans médecine. C'est un ensemble de trucs. Alors, les premières choses qui surgissent, c'est... Déjà 10 minutes ? Mon Dieu.
Pour qu'on ait encore 10 minutes de parole, d'échange après, 20 minutes au tout.
Ah, pour qu'on ait encore 10 minutes après, d'accord, ok. Alors, effectivement, je vais être obligé. Alors, les symptômes, vous trouverez décrits partout. Je vais très vite. Trouble de l'attention, trouble de l'agitation motrice. À mesure que l'enfant grandit, retard de langage, avec un langage parfois particulier, une prosodie chantante, mécanique, comme la prosodie. Parfois, l'enfant raconte un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il va des séries de noms, parfois même en anglais. Des troubles moteurs, souvent, avec par exemple, il effleure les choses, comme ça, et il ne touche pas. Des maladresses gestuelles et rapidement va se développer un centrage exclusif sur les écrans. Il ne veut que les écrans, non, ne veut rien d'autre. Il ne s'intéresse pas aux jouets, ne s'intéresse pas aux autres. Et voilà. Et quand on lui supprime l'écran, grosse colère, grosse violence, crie, coup, taper la tête par terre, etc., etc. Donc, et dès qu'on lui donne l'écran, il se calme. Voilà. Et cela va aller crescendo pour effectivement atteindre à partir de l'âge de 18 mois, 2 ans, un repli sur soi, et c'est la phrase qu'on a tous les professionnels, il est dans sa bulle, il est dans sa bulle, avec parfois même des détournements d'intérêt pour l'autre et des extinctions de l'attraction vers l'autre. Un enfant de 18 mois, ce qu'il aime, c'est aller vers l'autre. Alors, à partir de ce moment, de cela, quelle est la nocivité propre des écrans? Cette nocivité propre des écrans, Elle se réalise au niveau de 3 secteurs. Le premier, c'est au niveau des troubles de l'attention. Je ne vais pas développer ça, mais il y a aujourd'hui une branche qui s'appelle l'économie de l'attention, ce sont des professionnels qui font tout pour capter l'attention du spectateur. L'économie de l'attention, ça se développe dans les médias. Tout est fait pour que le spectateur ne détourne jamais les yeux du spectacle qu'il a. Donc il y a une hyperstimulation attractive avec les couleurs, le chatoiement, les bruits, avec le changement de décor. Enfin, il y a toute une technique extrêmement raffinée, plusieurs techniques pour capter capturer l'attention de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, le tout petit, bah, lui aussi, il a son attention captée et il ne peut jamais se détourner du spectacle. Et là, effectivement, l'écran lui-même, il ne s'arrête jamais et il ne laisse jamais de pause à l'enfant. Des pauses pour réfléchir. Tout à l'heure, je vous ferai la comparaison entre la lecture d'un livre et la regarder une tablette. À partir de cette captation de l'attention, eh bien, il y a quelque chose de très particulier qui n'existe pas dans la, qui n'existait pas avant. Normalement, chez les tout petits, quand vous leur donnez une stimulation matérielle, un hocher, un bruit, une musique, n'importe quoi, au bout d'un certain nombre de répétitions et de temps, l'enfant se lasse et se désintéresse. Il y a ce qu'on appelle une habituation. Il y avait une seule exception à ce processus d'habituation, c'était le visage humain. Un bébé, un petit, à 5, 6, 8 mois, il y a quelqu'un qui s'arrive, effectivement, il y a cette attraction pour le visage humain. Attraction qui persiste d'ailleurs chez les enfants qui ont une carence affective. Je le dis au passage. Or, aujourd'hui, il y a une deuxième exception, c'est les écrans. Il n'y a pas d'habituation pour les écrans. Quand on donne un écran à un enfant, il peut rester devant des minutes, des heures, etc., etc. Et vous lui redonnez, il est captif. Au fond, il y a la même attractivité pour l'écran que pour le visage humain. Et j'ai envie de dire, cette attractivité progressivement va se substituer à l'attractivité pour l'être humain. Donc, troisième élément, l'écran déroule son programme d'une manière totalement constante et indifférente et sans relation avec l'état affectif de l'enfant. Il y a une désynchronisation, aussi bien au niveau des mouvements qu'au niveau des émotions. L'écran déroule son programme devant un enfant qui est la plupart du temps sidéré et qui n'y peut mais. Il est là comme ça, hop, voilà. Et donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de rupture relationnelle et de vide relationnel. On pourrait dire que l'écran est un poison du développement de ce que j'appellerais les processus d'empathie, les processus de résonance émotionnelle, ce dont probablement Daniel Rapoport va parler tout à l'heure. Donc l'écran est un véritable poison pour cela et entraîne une désynchronisation interactive. Trois derniers points que j'ai soulignés tout à l'heure, juste avant, cette attractivité permanente de l'écran va finir par éteindre progressivement l'intérêt pour l'autre, aggravant la dimension d'enfant dans sa bulle. D'autant plus que cet enfant qui est devant ses écrans, etc., quand il a 18 mois, 20 mois, 22 mois, on lui offre une tablette. Et là, la tablette est encore plus perverse, parce que non seulement il y a des spectacles, mais en plus la tablette offre des jeux à l'enfant, des jeux entre guillemets, où l'enfant a d'un seul coup peut développer un attrait cognitif et actif. Il touche du doigt, ça explose, il fait bouger des choses, il change les couleurs des ballons, etc., etc. Et il est intrigué par cette capacité cognitive devant l'écran. Et je dirais que à ce moment-là, l'écran est un stimulateur qui va hypertrophier la composante cognitive de l'attention au monde au dépens de la composante affective et qu'il y a une véritable progressive atrophie émotionnelle et agressive qui risque de se développer. Chez un enfant qui est surexposé aux écrans, qui a atteint l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il peut y avoir effectivement un détournement d'intérêt pour l'autre, voire un détournement du regard. Alors que normalement, chez un petit enfant de 8, 10, 12 mois qui commence à avoir des symptômes d'exposition, de surexposition, l'engagement par le regard persiste. Et c'est un diagnostic différentiel avec l'autisme chez les tout-petits. Chez les tout-petits, l'autisme sans écran, eh bien, il y a un détournement du regard. Alors que quand il y a des symptômes d'allure autistique avec un écran, il y a encore un accrochage du regard. Mais vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il peut y avoir un détournement du regard chez les enfants qui peuvent alors être qualifiés d'autistes. Et on pourrait dire qu'à certains égards, parfois, la surexposition aux écrans peut provoquer un syndrome d'allure autistique avec un diagnostic différentiel compliqué. Donc voilà l'ensemble des troubles graves que les écrans peuvent provoquer. S'il y a une explosion actuellement de la fréquence de ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, c'est peut-être pas par hasard et c'est peut-être aussi en lien avec cette chose-là. Donc vous devez être très attentif à cela. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, chez le tout petit, en particulier avant l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, l'arrêt, mais uniquement chez les enfants qui ont ces troubles, l'arrêt absolu de tous les écrans avec bien entendu le soutien des parents pour les aider à jouer, à sortir avec l'enfant, retrouver des interactions ludiques, etc. Il faut aider les parents, bien sûr. À ce moment-là, l'enfant, au bout d'un certain temps, qui va passer de un ou deux jours chez les plus petits, à l'âge de 8, 10 mois, 1 an, à parfois 5, 6 jours, une petite semaine chez les plus grands, ceux qui ont 2 ans, 2 ans et demi, au bout d'un certain temps, l'enfant retrouve du plaisir, reprend des câlins. Et une des phrases très fréquentes, avant il ne voulait pas de câlins, maintenant il veut à nouveau des câlins. Et ça, c'est un élément important pour une maman quand son enfant veut avoir des câlins, recherche les câlins. Donc c'est quelque chose que vous devez connaître. Et aujourd'hui, dans votre profession, quand vous entendez des parents qui se plaignent, qui sont inquiets pour leur enfant, qui est agité, etc., ou qui a un retard de langage, ou qui est constamment devant les écrans, parlez-leur de ça. Dites, vous savez, ça, c'est un syndrome, il faut absolument consulter, parce que vous ne devez pas laisser votre enfant comme ça. Il faut faire quelque chose. Attention, ça risque de l'enfermer, de le mettre dans sa bulle et qu'il aura de plus en plus de mal à en sortir. Vous êtes des acteurs du soin aux autres et les écrans ne prennent pas soin de l'enfant. Je vais terminer par une comparaison. Voici un enfant qui est en train de lire un livre avec un enfant, avec son papa ou sa maman qui a, on va dire, 16, 18, 20 mois, et qui regarde un livre avec un livre avec des images, bien sûr, et le papa ou la maman commente les images et commente et lit le texte. Là, le papa tourne les pages, regarde l'enfant, de temps en temps l'enfant regarde, et puis de temps en temps le regard de l'enfant s'échappe, il part comme ça. Et au bout de 10 secondes, 15 secondes, le parent lui dit « Ah, regarde là, tu as vu la petite coccinelle ? Là, regarde, tu as vu l'oiseau ? Oh, regarde là, tu as vu la petite souris ?» Et puis il monte du doigt là. Et puis l'attention de l'enfant revient vers l'objet. Pendant 15 secondes, l'enfant, il n'était pas parti dans la lune. L'enfant était dans ce que j'appelle une attention profonde. C'est-à-dire qu'il était en train de réfléchir, en train de penser à ce qu'on venait de lui dire. Et on pourrait dire qu'il mettait dans sa tête ce que ses yeux et ses oreilles ont entendu et vu truc. Il mettait dans sa tête grâce à ce détournement transitoire pour revenir sur l'objet. L'écran, vous avez compris, il capte l'attention en permanence et ne permet pas à l'enfant de se détourner pour être dans ce qu'on appelle cette attention profonde, cette capacité de réflexion. Alors, c'est pas le livre en lui-même qui permet, qui a cette magie-là. Parce que si on donne un livre à un enfant de 12 mois, de 16 mois, 18 mois, et qu'on lui dit « débrouille-toi avec ce livre », qu'est-ce qu'en fait l'enfant ? Il le feuillette rapidement, il le déchire, il marche dessus et il s'en désintéresse. Ce n'est pas le livre, c'est la situation de lecture. Le fait que le parent est là, à côté de l'enfant, et commente le livre. Il ne viendrait pas à l'idée d'un parent de donner un livre à l'enfant parce qu'il voit qu'il le déchire, qu'il n'en fait rien. Donc quand il donne un livre, le parent d'un enfant de 2 ans se sent obligé d'être présent. Malheureusement, quand on donne l'écran capte l'enfant et le parent a le sentiment que ça suffit. Ben, c'est ça le drame. Parce que si le parent restait à côté de l'enfant, commentait ce qu'il y avait, arrêtait l'écran de temps en temps, tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi ce que tu as vu, etc. Et relançait comme ça, de 2 minutes en 2 minutes, l'historiette et la commentait. Moi, j'ai rien contre une utilisation comme ça de l'écran. Absolument rien contre. Parce que ça prendrait la place du livre tout banalement. Mais la puissance attractive de l'écran donne aux parents l'illusion qu'ils n'ont pas besoin d'être là. Et c'est ça le poison des écrans. Je considère aujourd'hui que l'écran est un toxique neurodéveloppemental, au même titre que les pesticides ou tous ces produits, dont on fait un raffut fantastique, alors que ça concerne, bien sûr, il faut s'en occuper, peut-être une centaine ou 200 enfants. Les écrans, ça concerne des milliers d'enfants, des milliers de tout-petits. Bien sûr, il y a une industrie de 5 milliards d'euros par an qui est derrière. Vous êtes donc des soldats qui devez lutter contre cela. Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est évidemment extrêmement saisissant, extrêmement impressionnant. Et est-ce qu'à cela, on ajoute quelque chose à propos des ondes électromagnétiques ?
Ah bah vous m'avez demandé de parler pendant... Là, j'ai parlé. Non, alors, moi, j'ai une compétence en tant que pédopsychiatre, m'occupant aussi des tout-petits, j'ai une compétence sur les interactions précoces, etc. J'ai pas de compétence sur les interférences entre les ondes électromagnétiques et le déchargement, et les synapses et les neurones. Donc, je ne parle pas de ce que je ne connais pas suffisamment bien.
Moi non plus, mais... Alors, quelques réactions, je vous en prie.
Oui, bonjour, vous nous avez dit que peut-être vous pourriez nous donner des références.
Oui, alors...
De livres,
alors, de première, vous avez dans... Alors, l'article dans Le Monde, qui est assez complet, c'est en dernière page d'un supplément Médecine du Monde, qui date du 2 mai 2018. À mon avis, sur Internet, vous le retrouvez, Daniel Marcelli, le syndrome de surexposition précoce, 2 mai 2018, le supplément du Monde en page 8, dernière page, une grande page, avec ma photo en couleur. Ensuite, vous trouverez dans Enfance...
C'est pour qu'on soit...
Voilà, vous trouverez dans une revue qui s'appelle Enfance et Psy. Enfance et Psy, qui est une revue assez bien diffusée auprès de tous les professionnels à la petite enfance. Le dernier numéro d'Enfance et Psy, d'ailleurs consacré aux parents, le rôle des parents, vous trouverez un article sur le syndrome de surexposition précoce et excessive aux écrans, donc Daniel Marcelli, Marie-Claude Bossière et Anne-Lise Ducanda. Anne-Lise Ducanda. Alors, vous pouvez aussi faire Anne-Lise et plus loin Ducanda, D-U-C-A-N-D-A, sur YouTube, et vous mettez excès d'écran. Et d'ailleurs, vous verrez sur YouTube des extraits complètement cinglés de parents avec des gamins qui ont des écrans sur l'épaule pendant qu'ils leur donnent le sein ou des trucs comme ça, et vous verrez les réactions des tout-petits quand on leur enlève l'écran. C'est effrayant. Effrayant pour deux choses. D'abord, effrayant de voir la souffrance de l'enfant quand tu lui retires l'écran, et effrayant de voir, excusez-moi, je vais être clair, la connerie des parents qui rigolent et qui ne prennent même pas conscience de la souffrance de l'enfant. Donc, c'est assez effrayant. Alors, bien sûr, c'est des cas caricaturaux, mais bon, voilà. Et vous trouverez encore un article qui va sortir dès le début de l'année dans la revue Devenir. Devenir, c'est une revue sur sur la toute petite enfance, par les trois mêmes auteurs, sur effectivement les mêmes choses. Ces trois articles qui sont bons, à chaque fois ça se complète. Et il y a un livre que je vais sortir au début de l'année prochaine, qui devrait s'appeler L'individualisme dans l'éducation. Et il y a un chapitre consacré justement à tous ces écrans individuels qui coupent les gens les uns des autres. Voilà. Voilà.
Et puis sinon, je voulais faire une petite remarque. Nous, on travaille beaucoup sur des questions administratives avec les parents qu'on accompagne, là, dans le cadre de notre mesure au nom bizarre. Et on est de plus en plus amenés, du coup, à passer du temps avec les parents sur des écrans, parfois sur des tout petits écrans, sur des téléphones, quand les parents n'ont plus de connexion Internet, quand les grands écrans ne marchent plus, quand... Voilà. Et du coup, de plus en plus dans notre pratique, on peut être avec des parents scotchés à valider le truc de Pôle emploi, valider le truc de la CAF, valider, avec plus que cette façon-là de le faire. Et on voit que notre pratique, je pense, dérive aussi de l'époque où on remplissait le papier avec l'enfant qui coloriait à côté. On passe à une époque où on est scotché et stressé sur la validation. Je ne veux pas dire qu'il faudrait qu'on retourne à l'âge de la taille de pierre, mais dans notre quotidien, on est aussi confronté à ça.
Vous touchez du doigt quelque chose de dramatique, c'est qu'effectivement, le nombre de métiers où l'écran vient se substituer à la relation, où vous êtes à côté de la personne devant un écran et à la limite, on parle à l'écran, on ne parle plus à la personne, et où effectivement, vous avez raison, pour être tranquille, on risque de donner un écran au tout petit, alors qu'avant, on lui donnait une feuille avec un crayon de couleur et qu'on regardait de temps en temps et que l'enfant était pris dans l'interaction. C'est dramatique. Voilà. Donc, ce que vous avez là, ce que vous venez de souligner, professionnellement, il faut que vous soyez attentif à ça et capable de vous détourner de l'écran de temps en temps et de vous centrer sur l'enfant et de vous centrer sur la personne. Ça, c'est un effort que vous devez faire dans l'utilisation de ces techniques. Oui ?
Je vous en prie.
Oui, bonjour. Alors moi, je n'ai pas une remarque, mais une question. Quelles sont les conséquences, en fait, à long terme, quand l'enfant a été surexposé aux écrans, voilà, dans le développement, mais peut-être en allant plus loin, quoi, à l'âge adulte, en fait ?
Bah, d'abord, premièrement, c'est une pathologie d'expression nouvelle, puisqu'effectivement, ces tout-petits qui ont été devant les écrans dès la naissance, quasiment, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est une chose de découvrir les écrans, par exemple, quand les jeunes avaient 6, 7 ans, 8 ans, ou voilà, et d'avoir un fond de structuration plus ancien. L'expérience montre que quand on laisse les enfants devant ces écrans en surexposition au-delà de 4-5 ans, ben, ils ont des syndromes, des comportements d'allure autistique. Et en général, il y a les troubles, il y a un certain nombre de troubles qui persistent. Ce qui persiste, c'est les difficultés d'attention. Ce qui persiste, c'est l'agitation et l'hyperactivité. Et ce qui persiste souvent, c'est des difficultés d'engagement relationnel avec l'autre. Le retard de langage, en général, s'améliore un petit peu, et s'améliore avec, grâce à de l'orthophonie, etc. Donc ça laisse des pathologies, enfin ça laisse des troubles de personnalité assez importants. Avec, je pense aussi, de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est des êtres humains qui ont de plus en plus de difficultés à avoir ce que j'appellerais du souci, un vrai souci pour l'autre, c'est-à-dire un sentiment d'empathie et d'attention à l'autre. L'être humain, il a besoin d'attention, de reconnaissance et de considération.
Je me permets d'insister parce que en fait, on lit beaucoup de choses aujourd'hui sur les conséquences des écrans et notamment sur une modification même de la structure du cerveau. Voilà. Enfin, du coup, je voudrais aussi votre avis par rapport à ça.
Je viens de vous dire, je fais partie des gens, des personnes. Par exemple, l'attention. Est-ce que alors là, on est dans le dur. L'attention. Est-ce que c'est une capacité psychique qui vous est donnée par un chromosome ou qui vous est donnée par un gène et vous avez à la naissance une quantité d'attention génétiquement déterminée, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se développer dans l'interaction avec l'autre? Alors, par exemple, l'attention, qu'est-ce que l'enfant, ce qu'on appelle l'attention conjointe, quand la maman a un objet, un hochet ou une girafe, et que elle attire l'attention. L'enfant regarde le hochet, la maman regarde le hochet, ils se regardent un peu de temps en temps, l'enfant regarde ailleurs. Et la maman agite à ce moment-là le hochet, et lui dit « Oh, t'as vu le hochet comme il est beau ?» Et d'une certaine manière, elle attire l'attention de l'enfant sur l'objet, et elle lui apprend que la petite mouche, elle lui apprend que les stimulations extérieures, c'est secondaire par rapport au hochet. Et qu'on apprend, quand on est attentif à quelque chose, on désinvestit ce qui n'est pas pertinent et on investit ce qui est pertinent. Exactement comme dans la lecture du livre. Eh bien, effectivement, cette structuration, elle est interactive. Et je pense que cette attention, elle se développe aussi grâce à ce qu'on appelle l'épigénèse. De même, l'empathie, le sentiment d'attention pour l'autre. Qu'est-ce que c'est que les interactions croisées? C'est développer un échange émotionnel et un échange mimique, ce qui en général donne un sentiment de consistance et un sentiment de permanence d'existence, ce dont va nous parler Daniel Rapoport ensuite. Eh bien ça, l'écran ne le donne pas. Voilà, il peut y avoir ce que j'appellerais une atrophie. On n'a pas comme ça une quantité d'empathie qui arrive à la naissance.
J'accompagne une famille où la maman, elle ne sait pas lire. Est-ce que... Donc les histoires sur les écrans, est-ce que ça fonctionne ou pas?
Si elle ne sait pas lire, premièrement, il existe des livres pour enfants avec uniquement des images, à moins qu'elle soit aveugle aussi et sourde, auquel cas c'est compliqué. Mais si simplement elle ne sait pas lire, y a plein de choses où elle peut continuer à commenter un livre d'images, à le commenter. Et la première chose à faire, c'est faire que cette maman n'ait pas honte de son incapacité de lire. Commencer par dire, c'est pas grave madame, vous allez vous débrouiller depuis la nuit des temps, il y a plein de mamans qui savaient pas lire. Et pourtant, leurs enfants, ils se sont bien développés. Donc il faut pas vous gêner par ça. Vous avez des images, vous racontez les images du livre, vous pouvez jouer avec des petits bonhommes et des personnages, vous lui racontez ce que votre maman vous racontait quand vous étiez petite, vous lui racontez les contes et les choses que vous avez apprises. Généralement, les gens qui ne savent pas lire, ils ont une excellente mémoire. Donc appuyez-vous sur ces compétences. Aidez-la à ce nouveau. Le drame, c'est qu'on risque de la dévaloriser ou de la regarder de haut au prétexte qu'elle ne sait pas lire. Voilà les conseils que je peux vous donner, madame.
Oui, bonjour. Juste une petite réflexion. Je voudrais mettre ça en lien avec ce que le thème d'hier sur la bouffe ou la malbouffe. Et il y a un souci, un besoin en tout cas pour les familles d'être assimilées, d'une assimilation à tout ce qui est courant dominant. Et on est sur le même schéma entre le fait d'acheter des plats cuisinés, de pas cuisiner, d'avoir une illusion d'être dans un fonctionnement normal et l'accès aussi à tout ce qui est informatique, numérique, etc. Voilà. Et on a peut-être du travail nous aussi là-dessus. Dans nos vies personnelles et dans notre travail aussi, oui. De mettre ce lien, enfin, de
faire le lien. Comble,
je
le
pense
comble,
à tout ça. Voilà. Et juste par rapport à ce que disait hier le médecin sur la sédentarité, le fait de marcher, vous avez dit qu'on allait parler aujourd'hui de marcher, enfin, voilà. La relation des personnes entre elles, le souci du corps, de l'équilibre corps-esprit et le fait d'avoir de l'activité physique, voilà, je pense qu'il y a un lien à développer dans nos pratiques. Oui.
Ce sera une jouissance absolument extrême lorsqu'on bouffera tous des McDo avec notre portable ou notre iPhone devant nos yeux. Et là, nous serons quand même absolument tous obèses et tous ravis.
Allez. Ça peut même servir de conclusion provisoire.